on a, me semble-t-il, des styles ecclésiaux assez différents. Je disais dans mon livre que ça correspond à deux manières d'interpréter Vatican II, un qui est beaucoup plus lié à Gaudium et Spes et qui veut présenter finalement le message chrétien en lien avec le monde beaucoup plus. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus marqués par l'expérience du renouveau charismatique. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus dans le témoignage direct, l'interpellation, l'appel à la conversion.
Comment ces musiques sont-elles utilisées? On peut penser peut-être à la liturgie, au groupe de prière, etc.
Les groupes ont des usages divers et même se rapportent sur le plan pastoral à des façons diverses de rencontrer les gens. Donc on peut dire qu'il y a des groupes qui sont vraiment développés dans des concerts, qui peuvent les faire dans des lieux extrêmement variés, dans des cabarets, etc. Et des gens viennent les écouter et sont touchés par leur musique, tout simplement, et leur témoignage chrétien. Deuxième mode d'usage, qui est celui plus particulièrement de la pop louange, c'est-à-dire c'est des concerts qui ne sont pas tout à fait devant des publics, mais devant des assemblées. C'est-à-dire, le but de ces concerts, c'est de faire prier des gens. C'est vraiment clair au départ, c'est-à-dire les gens viennent pour prier, les chants sont des cantiques qui sont dans le style effectivement des musiques actuelles. Donc l'idée, c'est qu'on est face à un groupe de personnes qui viennent vraiment pour entendre quelque chose de chrétien et qui viennent vivre une expérience spirituelle par l'intermédiaire de la musique. Et puis, il y a un troisième usage qui est celui plus de la paraliturgie. C'est-à-dire, dans la pop louange, c'est vraiment le leader du groupe qui guide l'assemblée. Alors que dans une paraliturgie, là, c'est clair que c'est le pasteur ou le responsable de l'assemblée, le responsable de la communauté qui guide. Et là, les musiciens ont vraiment un rôle de serviteur. Donc, ils chantent, ils essaient d'aider l'assemblée à prier, mais sous la conduite, une conduite pastorale extérieure. Et puis, le dernier lieu d'usage, c'est le lieu liturgique. Et là, qui répond à des règles liturgiques, qui répond aussi à la présidence normale de l'assemblée liturgique, etc.
On reproche souvent à certains groupes catholiques d'adopter la manière de faire évangélique, vous savez, avec ces gros concerts, etc. Et selon vous, est-ce que c'est justifié ou les cathos sont-ils parfois peut-être un petit peu réac?
Je dirais pas qu'ils sont réac du tout, mais qu'ils utilisent des façons de faire qui fonctionnent. Ils sont vraiment un modèle chez nos frères protestants et chez nos frères évangéliques, et qui a été aussi un modèle, par exemple, pour Glorious. Et ils en parlent parce que il y a des communautés qui portent, il y a vraiment un souci de faire de la musique pour l'annonce du royaume, et de ce point de vue-là, et de prendre des moyens clairement professionnels, de grande qualité musicale, de grande qualité sur le plan de l'animation, pour pouvoir aider des personnes à rencontrer le Christ. Donc sur ce plan-là, je dirais, les évangéliques ont précédé les catholiques. Donc de ce point de vue-là, il y a un modèle. Mais en même temps, les catholiques ne font pas pareil. C'est ça qui est intéressant. Je vois la façon de faire de Glorious, par exemple. Quand ils font un concert, ils amènent des personnes à prier, mais ils gardent un grand, grand équilibre ecclésial. C'est-à-dire, par exemple, ils annoncent la parole de Dieu. Il y a souvent, de manière un peu parallèle, une adoration eucharistique. Je vois ce qu'ils font à Lyon Centre, par exemple, où ils rassemblent régulièrement des jeunes. Ce n'est pas eux qui annoncent la parole, c'est souvent un prêtre qui vient. Et puis, il y a un appel à une rencontre fraternelle. Donc, les gens partagent entre eux. Et puis, ensuite, ils sont renvoyés auprès des plus pauvres. Il y a un équilibre ecclésial qui est tout à fait catholique et qui renvoie aussi à des données de la liturgie. Donc je dirais, on n'est pas dans une expérience où directement chacun est renvoyé simplement à sa conscience et à sa relation personnelle avec Dieu. Il y a des médiations exprimées très nettement. Alors je ne dis pas que nos frères protestants n'expriment pas ces médiations, mais je dirais, dans la théologie catholique en tout cas, il y a une place donnée à ces médiations qui est plus forte, et dans la pratique, elle est tout à fait évidente.
Quelle attitude l'Église peut-elle avoir face à ces expériences innovantes? Est-ce qu'il est aujourd'hui, selon vous, fondamental que l'Église les encourage?
Bien, ce qui est d'abord fondamental, c'est qu'elle encourage ce qui est bon. C'est-à-dire, dans le principe, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, on ne peut pas dire que les musiques actuelles posent un problème. Il n'y a pas de canon de style dans la liturgie, il n'y a pas de canon de style dans la paraliturgie, etc. Il n'y a aucune raison d'en donner. Donc de ce point de vue-là, par ces musiques, on rencontre une expérience musicale et culturelle tout à fait contemporaine. C'est-à-dire, c'est une expérience de la pulsation, c'est une expérience de l'émotion, une expérience liée à la danse, et qui rejoint le corps, qui rejoint une manière d'adorer, une manière de faire l'expérience de l'exultation, de la louange, etc. Et qui, à mon avis, on ne reviendra pas là-dessus dans l'histoire culturelle et y compris dans l'histoire de l'Église. Donc ça me paraît important d'en prendre acte, de l'encourager et de ne plus être dans une situation où il faudrait que systématiquement les musiques actuelles aient à justifier du fait qu'elles ne sont pas sataniques, qu'elles ne sont pas médiocres, qu'elles ne sont pas, etc. Bref, ce que les conservatoires ont fait en assumant des musiques actuelles, eh bien je pense que l'Église peut le faire. Mais elle doit le faire effectivement par un discernement, un discernement qu'elle a fait tout au long de son histoire par rapport à des propositions musicales. Elle l'a fait quand il a fallu passer du plein chant à la polyphonie. Elle l'a fait quand il s'agissait de ne pas confondre l'église, le lieu de la célébration avec un opéra, etc. Elle l'a fait tout au long de son histoire. Et elle doit le faire aussi par rapport aux musiques actuelles. Les musiques actuelles, il faut bien s'en rendre compte, on a 50 ans tout juste de recul sur elles. On voit bien que l'inculturation, c'est-à-dire cette association de la culture avec le cœur et avec l'expérience communautaire, ne s'est pas fait complètement encore. Mais justement, il faut l'encourager pour faire en sorte qu'il y ait des œuvres liturgiques de grande valeur qui soient réalisées. Dans des domaines aussi, dans la liturgie de la messe, bien sûr, mais aussi dans la liturgie des heures et dans d'autres lieux liturgiques.
Mais alors finalement, c'est un peu ça la question centrale, celle de l'implication de la musique dans l'expérience spirituelle et dans l'expression de la louange. Alors dans quelle mesure la musique s'implique-t-elle dans cela ?
C'est un peu le cœur de mon livre, hein. C'est ce qui fait à mon sens une partie de son originalité. J'essaye de montrer que les musiques actuelles, elles rejoignent le corps. Ce sont des musiques de la compassion qui peuvent rejoindre l'homme dans ce qu'il a de blessé et placer l'homme dans une communion avec d'autres personnes à l'intérieur de la prière, principalement dans une relation avec le Christ. Et donc c'est rejoindre ce que Philippe Berger dans un livre appelait le cri humain. Et les musiques actuelles rejoignent le cri de l'homme et donc peuvent permettre à l'homme d'entrer dans la prière et d'adorer aussi Dieu avec leur corps, donc adorer en esprit, en vérité, parce que l'esprit porte à ce moment-là le corps, l'âme, etc. Alors pour ça, il faut des conditions, il faut que l'âme, certes, exulte, mais que l'âme puisse être un lieu ouvert dans lequel une réponse personnelle puisse se faire. Donc que les musiques actuelles, pour le coup, que la musique ne sature pas le piéchisme, par exemple, hein, qu'elle ouvre un espace de dialogue avec Dieu. Il ne s'agit d'ailleurs pas du tout que les musiques actuelles remplacent les autres musiques, enfin, comme s'il y avait simplement une concurrence. Il s'agit de prendre une place et pas de prendre toute la place. Enfin, il y a une tradition dans l'Église et il y a même des traditions musicales variées. Il faut qu'elles aient vraiment chacune leur place. And the Jesus grace will make me life so sweeter and sweeter. And the Holy Spirit in my life get brighter and brighter. And I read the words of God, me getting wiser and wiser. And me wake up, me Jesus grace, me get.